Notre invité à présent sur l'antenne de Liberté FM est au téléphone et je l'en remercie. Bernard Reveriego, bonjour.
Bonjour.
Chercheur, ancien archiviste aux archives départementales de la Dordogne, et vous allez proposer une conférence ce vendredi 30 janvier à 19h au Centre départemental de la mémoire et des résistances rue Littré, c'est donc près des archives départementales, sur le thème « Histoire de la sauvegarde des enfants juifs de l'orphelinat alsacien de Bergerac ». C'est un lieu que l'on redécouvre, j'ai l'impression, depuis quelques mois seulement. Est-ce que c'est une impression ou c'est une malconnaissance de ma part?
Oui, en fait, l'histoire de l'orphelinat, je la connaissais dans mon ouvrage de 2003 sur les Juifs en Dordogne, je citais son existence rue Valette à Bergerac. Mais il est vrai que c'est revenu un petit peu à la mode du fait qu'il y a eu... Du fait que Rainer Maria Henkel, un professeur d'allemand du lycée Mendebiran, et moi-même avons travaillé ensemble pour que soit mis en place un mémorial ou une plaque ou une stèle au lycée Mendebiran. Donc effectivement, cela fait quelques années maintenant que l'on se bat pour que cette stèle voie le jour au lycée Mendebiran. Mais la connaissance historique est plus ancienne.
On a l'impression aujourd'hui que quand on passe devant ce lycée, on a oublié ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Alors ça, oui, ça, l'oubli, il est réel, puisque de toute façon, il n'y a plus aucune trace matérielle de l'orphelinat, qui consistait en fait un immense baraquement qui faisait peut-être 60 ou 70 mètres de long. Et ce baraquement était situé dans ce qui est actuellement le parking des professeurs du lycée Mendebiran. Donc celui qui passe à l'angle de la rue Valette et de la rue Sévigné, à Bergerac, ne voit rien. Il voit des voitures, mais s'il n'a pas la connaissance, tout est oublié.
Combien y avait-il d'enfants dans cet orphelinat à ce moment-là?
Alors le nombre d'enfants a varié. Il y avait en moyenne 40 à 50 enfants, mais j'en ai recensé pour l'instant 71, sachant que certains passaient, parce que c'était la période de guerre, c'est une période très difficile, certains pouvaient passer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et d'autres y ont séjourné durant tout le séjour d'ouverture de l'orphelinat, c'est-à-dire de janvier 1941 à janvier 1944, date de la fermeture.
D'où venaient ces enfants?
Alors ces enfants, c'est une histoire très particulière, puisque leur histoire est liée d'abord à la montée de l'antisémitisme en Europe, et ensuite à l'histoire de l'évacuation des institutions et des populations alsaciennes en Dordogne. Le premier point, c'est l'antisémitisme, c'est-à-dire que à partir de l'antisémitisme existait bien sûr en Europe de l'Est depuis longtemps, au XIXe siècle, XXe siècle, mais c'est l'avènement du nazisme, bien sûr, qui a apporté un coup décisif, et il y a une date clé, qui est celle de 9 et 10 novembre 1938, c'est-à-dire la nuit de Cristal. C'est la première fois que Hitler s'en prenait physiquement aux populations juives, et c'est à ce moment-là que certaines familles et institutions juives ont décidé d'évacuer vers la Grande-Bretagne et vers la France des enfants issus d'orphelinats de Karlsruhe ou de Francfort. Et ces enfants sont arrivés dans des institutions strasbourgeoises qui, elles, existent depuis longtemps. Donc ils ont été recueillis à partir de la fin 38, début 39. Mais lorsqu'il y a eu la guerre, donc fin 39, tout ça, ça se bouscule. Les orphelinats de Strasbourg et de Haguenau, orphelinats israélites, ont été évacués vers la Dordogne en fin 39 pour les uns et mai 40 pour les autres. Donc c'est une histoire compliquée qui fait appel à plusieurs événements historiques qui se succèdent ou qui sont concomitants.
C'est aussi lié à l'arrivée des Alsaciens en Dordogne à cette période-là.
Et oui, exactement, puisque les orphelinats, l'orphelinat de Bergerac, en fait, ce n'est pas une création véritablement, c'est la réinstallation en Dordogne d'institutions juives existant en Strasbourg. Et à Strasbourg, il y avait un orphelinat de jeunes filles, un orphelinat aussi pour les enfants en très bas âge, qui s'appelait Lévi, et ceux-là sont arrivés fin 39. Ils sont arrivés en Dordogne, mais on les a installés à Vélines. Les conditions d'accueil étaient très mauvaises sur le plan de l'hygiène. Donc les responsables israélites ont décidé de trouver un autre lieu. Ce lieu, ça a été l'aérium d'Arès sur le bassin d'Arcachon, qui était tenu par une philanthrope qui s'appelait Sophie Wallerstein. Et donc les petits sont restés là jusqu'à l'arrivée des Allemands, parce que les Allemands ont récupéré, ont réquisitionné l'aérium, et donc il a fallu en janvier 41 qu'ils partent en urgence. Et à ce moment-là, ils sont revenus en Dordogne, et on les a installés à Bergerac, où pendant l'année 40, les responsables avaient eu le temps de construire ce baraquement. Et quant aux enfants, aux garçons de Haguenau, je finis juste ça, ils sont arrivés, ils sont partis tous les bombardements, puisqu'ils n'ont pas fait partie de l'évacuation de 39, ils sont partis en mai 40, et eux sont arrivés à Trélissac, on les a installés dans l'hôpital annexe de Trélissac, donc dans le près du château, il y avait des baraquements, et ils sont restés plusieurs mois, jusqu'à ce qu'ils soient eux aussi déménagés à Bergerac au printemps 41. Donc c'est une histoire très compliquée.
Quel âge avaient ces enfants ?
Alors, puisqu'il y avait des enfants en bas âge, il y avait des petits de 3-4 ans, mais à l'orphelinat, en général, il y avait une sélection, si vous voulez, des enfants de 6-7 ans jusqu'à 15 ans. C'est-à-dire qu'une fois que les enfants dépassaient l'âge de 15 ans, il fallait leur trouver une autre destination. Donc ça, c'est encore une histoire dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il existait à Périgueux, 40 rue Louis, un foyer pour les jeunes garçons juifs, bien sûr, dans lequel étaient accueillis certains des garçons qui sortaient de l'orphelinat de Strasbourg, de Bergerac, pardon.
Et avec le franchissement par les Allemands de la ligne de démarcation, donc nous sommes en 1942, est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour cet orphelinat juif de Bergerac ?
Non, alors ça c'est ce qui est curieux, c'est que en fait il n'y a pas eu d'instruction particulière au service de police ou de Gestapo par rapport aux enfants. Les Allemands étaient pris par d'autres soucis, les dénationalisations, ce qui se passait en Italie, etc., sur la zone italienne plutôt, de la France. Donc ils ont laissé tout ça un petit peu en... Mais il n'empêche que il y avait un événement clé qui a joué, ce sont les événements de l'été 42. C'est-à-dire qu'à l'été 42, il y a les rafles, en particulier du Veldiv à Paris, et les rafles du 26 août 42 dans toute la zone sud, puisque 10 000 blouses étrangers sont arrêtés. Mais que ce soit le Veldiv ou que ce soit les rafles en zone sud, des milliers d'enfants sont arrêtés. Et pour la première fois, des milliers d'enfants sont arrêtés et seront déportés. C'est-à-dire que l'été 42, c'est aussi le moment où les responsables, juifs ou non-juifs, ont la preuve qu'à l'Est, on ne voit pas les juifs pour qu'ils travaillent, mais ce sont des abattoirs, des abattoirs humains. Donc ces deux choses-là font que les responsables qui avaient fait en sorte que les enfants soient installés dans des orphelinats, où ils trouvaient un abri, un provisoire, se sont rendus compte que ces maisons d'enfants étaient devenues des pièges mortels. Donc à l'été 42, ils ont commencé à réfléchir, du fait même de ces rafles, à la nécessité de faire passer tous ces enfants dans la clandestinité. Jusqu'à présent, ils étaient dans la légalité, donc tout le monde savait qu'ils étaient là, y compris Vichy, qui n'était pas contre d'ailleurs. Et c'est à partir de l'été 42 que les responsables juifs décident de passer tous les enfants dans la clandestinité, de fermer les orphelinats, toutes les maisons d'enfants en France, dont celle de Bergerac, à la date de janvier 44. C'est ce qui va être fait, en particulier à Bergerac, en novembre et décembre 43. Les plans avaient été élaborés. Un réseau avait été monté très important en France, qui était le réseau Garel, et tous les enfants seront cachés.
Avant qu'ils ne partent, quel était le quotidien, la vie de ces jeunes donc dans cet orphelinat ? Est-ce qu'ils avaient des cours ? Est-ce qu'ils pouvaient sortir dans Bergerac ?
Oui, ils étaient parfaitement intégrés. De toute façon, c'était des orphelinats alsaciens, donc ils étaient connus, ils étaient dans la parfaite transparence et l'égalité. Les responsables qui s'occupaient d'eux à Bergerac ou à Périgueux étaient exactement les mêmes que ceux qui s'occupaient déjà d'eux à Strasbourg. C'était des notables, c'était des gens très connus sur Strasbourg. Et les enfants avaient une éducation tout à fait normale, soit les petits avaient des cours à l'école primaire ou soit sur place. Les autres allaient dans les collèges, les lycées, sortaient. Bon, alors l'éducation était comme à l'époque dans tous les orphelinats, c'était sévère. Quand on regarde les témoignages des enfants, c'était sévère. Mais il faut imaginer aussi que tous ces enfants étaient dans une situation très particulière. C'était déjà des orphelins, donc certains étaient des pupilles de l'obtention publique, tandis que beaucoup d'autres étaient des étrangers. Ça, c'est très important. Il faut savoir qu'il y avait trois quarts d'étrangers et un quart de Français. Or, ce qui courait un grand danger, c'était surtout les petits-enfants, les juifs étrangers, en particulier les ex-allemands ou autrichiens. Donc, cette question de nationalité était importante. Mais sinon, il y avait aussi une éducation religieuse, ils pouvaient sortir. Non, la vie était relativement tranquille jusqu'à l'été 42, où il y a eu ces décisions qui ont été prises, mais qui ne sont entrées en fonction réellement pour les enfants qu'en décembre, novembre-décembre 43. C'était des enfants aussi qui, souvent pour les étrangers, avaient perdu leurs parents. Soit ils avaient été envoyés par leurs parents en France, et c'était déjà un arrachement, soit leurs parents avaient déjà été déportés, ou soit ils le seront. Donc, c'est des enfants qui ne parlaient pas le français, qui, évidemment, n'allaient plus à la synagogue, même si à l'orphelinat, bien sûr, il y avait des cours d'instruction religieuse. Et c'était des enfants qui vivaient une période très, très difficile.
Est-ce que, après la guerre, ceux qui ont survécu sont revenus à Bergerac? Est-ce que vous avez des traces éventuellement de certains qui ont évoqué peut-être ou qui sont revenus donc à Bergerac sur les pas de leur enfance?
Alors, ce qui prévaut ici, comme pour toute cette période de guerre, c'est le silence de ceux qui ont fait les choses, qui ont aidé les enfants dans la résistance. Ceux-là, ils n'ont jamais parlé. Hein. Ce sont les grands résistants, ce sont souvent les plus modestes aussi. Quant aux enfants, ils ont énormément souffert. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient là, on passait de l'Allemagne ou de la Pologne, la Tchécoslovaquie à Strasbourg. À Strasbourg, ils étaient déjà orphelins. Il y a toutes ces questions d'adaptation. Donc, on constate dans leur dossier, comme tous les enfants d'ailleurs, qui subissent des mauvais traitements, même s'ils sont dans un environnement favorable, qu'il y a des carences affectives, il peut y avoir des carences dans l'instruction, il y a toutes sortes de désordres qui marquent les enfants. La séparation des enfants, souvent tragique. Donc, effectivement, c'est le silence qui a marqué les uns et les autres, mais pour répondre concrètement et positivement, je dirais oui, il y avait une jeune fille qui s'appelait Hélène Frankel. Elle était polonaise, elle venait d'Allemagne, mais c'était la seule qui a été arrêtée lors de la rafle du 26 août 42. Elle a été relâchée au camp de Nexon parce qu'on a pu faire valoir qu'elle n'avait pas les tests d'un requis pour être déportée. Donc elle est revenue à l'orphelinat et là, en novembre 43, elle a été placée dans une famille, la famille Jacquin, à Saint-Germain-et-Pons, où elle a été cachée jusqu'à la fin de la guerre. C'est d'ailleurs une famille qui a obtenu la médaille d'Auguste. Oui. Et Hélène Frankel est revenue en France avec toutes ses descendants, ses très nombreux descendants, je les avais rencontrés il y a peut-être 10, 12 ans, 13 ans, était venue à Périgueux et elle était allée à Bergerac où elle voulait transmettre à ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, son histoire. Compliquée, comme je viens de l'expliquer. Très peu, oui.
On peut comprendre qu'effectivement ça a été très compliqué, peut-être pour elle aussi de raconter ce qu'elle a vécu à ce moment-là, hein, parce que pour beaucoup c'était enfoui dans la mémoire et pas envie forcément de le relater même à leurs proches.
Et puis surtout que les gens qui vivent, on le voit bien, les gens qui vivent une période n'ont pas forcément la connaissance de ce qui leur arrive. Ils sont passifs, ils ont subi. Mais c'est l'histoire qui permet de donner du sens à ce qu'on n'en avait plus en intégrant son propre passé dans un contexte beaucoup plus large. Et effectivement, elle pensait même qu'elle avait été la déportation parce que quelqu'un s'était sacrifié pour elle. Or, pas du tout. Il n'y avait pas du tout une histoire de sacrifice, mais elle avait vécu ça. Et donc, quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé, j'ai compris que j'avais eu tort parce que je venais perturber le schéma qu'elle s'était elle-même qu'elle avait elle-même créé pour compléter l'histoire qu'elle méconnaissait. Mais ce que je voudrais dire aussi, parce que je ne sais pas si on aura le temps de le dire, et c'était très important, c'est que l'histoire des enfants cachés, il faut bien voir qu'à l'orphelinat, tous les enfants ont été sauvés, alors que si on regarde par exemple une maison d'enfants qui n'a pas été fermée en France, c'était la maison d'Izieux dans l'Ain, et en avril 1944, Gestapo de Klaus Barbie est arrivé et a déporté les 44 enfants. C'est-à-dire que cette conscience des responsables juifs de la nécessité de fermer leurs orphelinats et de passer à la clandestinité était juste, parce que l'expérience a posteriori leur montré qu'ils avaient raison. Et c'est-à-dire que cette action de passer les enfants dans la clandestinité n'aurait jamais pu se faire si les responsables israélites n'avaient pas trouvé dans toutes les strates de la population des réseaux d'aide, que ce soit dans les collèges, dans les institutions religieuses, dans la préfecture, auprès de l'inspecteur de l'assistance publique, etc., chez les particuliers, etc. Donc il y a eu une ramification incroyable et une concentration des efforts entre les uns et les autres pour que chaque enfant trouve une place et soit sauvé. Enfin, je trouve que c'est absolument remarquable.
C'est une action effectivement qui a sauvé les enfants, contrairement à Lisieux, comme vous l'indiquiez à l'instant. Merci beaucoup, Bernard Verriego. Je rappelle donc cette conférence que vous donnerez sur le thème « Histoire de la sauvegarde des enfants juifs de l'orphelinat alsacien de Bergerac, 1939-1944 ». C'est ce 30 janvier à 19h au Centre départemental de la mémoire et des résistances. C'est près des archives départementales de la Dordogne, donc au cœur de Périgueux, rue Littré. Est-ce que cette conférence, est-ce que cette histoire peut donner lieu à un livre et à un ouvrage ?
Oui, alors cet ouvrage est en cours, je suis en train de l'écrire. Il sera publié sans doute en septembre ou octobre 2026 aux éditions Panlac. J'avais déjà publié deux ouvrages sur la période et sur le sujet du judaïsme en Dordogne. Donc oui, il y aura un ouvrage sur cette histoire-là à l'automne 2026.
Eh bien, ça nous donnera l'occasion d'en reparler sur l'antenne avec tout le travail d'archiviste et d'enquêteur finalement que vous faites sur cette période-là. Merci beaucoup Bernard Verriego pour ces quelques minutes et je rappelle donc cette conférence ce 30 janvier 19h à Périgueux-Littré. À très bientôt.
Merci beaucoup Pascal, au revoir.